Nous avons fait un choix collectif d'aborder ensemble, Xavier Ulrich et moi, des mêmes thèmes durant cette année, dans le but de préparer l'Église pour entrer dans la vision que Dieu nous a donnée pour cette Église dans un avenir proche. Et vous savez certainement, pour vous qui suivez régulièrement, qui faites partie de cette Église, que nous avons abordé pendant ces premiers mois de l'année le thème de l'Église, particulièrement l'Église locale, son rôle, sa mission. Et on a fait cela jusqu'à la période de Pâques. On a fait une halte à Pâques pour parler d'un sujet, bien sûr, sur Pâques, au-delà du voile. Et nous avons prolongé cette préparation donc de l'Église en choisissant un autre thème qui est celui du disciple, pour parler un peu plus de nous les chrétiens, dans cette Église, comme tout autre chrétien dans son Église. Nous sommes aussi des disciples, c'est ce terme qui revient très souvent, particulièrement dans les évangiles. Et si Jésus a choisi cela, c'est pour bien évidemment une raison bien particulière, et nous avons choisi donc de nous arrêter un peu sur ce que l'Évangile entend par ce mot « disciple » qui nous qualifie les uns et les autres. On est aussi des enfants de Dieu, des frères et des sœurs en Christ. Il y a bien d'autres noms qui nous qualifient, mais celui-là est important et a un sens important, bien sûr, pour nous qu'il convient de comprendre. Donc on a ensemble choisi d'aborder ce thème du disciple. J'ai commencé cette série en vous parlant il y a quelques semaines de la mission du disciple. On a parlé du message que le disciple doit apporter, la motivation que nous devons avoir, bien sûr, dans notre mission. Puis, Xavier, la semaine dernière, vous a parlé du disciple, être disciple aujourd'hui. Et ça implique un certain nombre de renoncements. Hein, renoncer à ses impressions, ou encore à ses intérêts personnels, à la routine aussi, ou encore à sa nature. Donc, on a ensemble, là, partager un certain nombre de points bibliques concernant le rôle du disciple qui est le nôtre. Et je vais prolonger ce matin ce thème en parlant du disciple à partir d'un texte dans Galates 5.1, lorsque Paul dit à ses chrétiens, Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Nous allons parler de la liberté du disciple. Un vrai disciple de Christ, pleinement accompli, c'est un disciple qui vit pleinement la liberté en Christ. Je pourrais dire que c'est un disciple qui va être épanoui. On a envie d'avoir une église épanouie, mais ça passe par des disciples qui sont épanouis. Où je pourrais utiliser un langage plus familier en disant le disciple que Dieu ou Jésus veut que nous soyons, c'est un disciple bien dans sa peau. Non ? Vous comprenez ce que ça veut dire ? Un disciple qui est bien dans sa peau. Malheureusement, tous les chrétiens ne sont pas bien dans leur peau. On constate qu'il y en a qui ne sont vraiment pas bien dans leur peau. Et c'est vraiment dommage. Et l'une des raisons, c'est pour certains, pour tous, bien évidemment, il peut y avoir d'autres raisons, mais l'une des raisons, c'est qu'ils ne vivent pas vraiment dans la liberté. La liberté que Christ nous a donnée lorsqu'il nous a libérés. Si nous avons été libérés, c'est pour être libres, pour vivre libres. Et c'est dans la mesure où nous allons être des chrétiens qui vivent pleinement dans cette liberté que nous allons aussi faire envie aux autres. Qu'un chrétien qui n'est pas dans cette liberté, il ne va pas faire envie. Si nous voulons faire envie, attirer les autres, nous devons vivre pleinement cette liberté. Et particulièrement dans notre culture qui est très attachée à la liberté. Alors, le monde n'a pas la même notion de la liberté que la Bible nous donne, bien évidemment, mais notre culture est très attachée à la liberté. C'est même ce qui vient en premier dans la devise de la République française, c'est d'abord la liberté. Après, il y a l'égalité, la fraternité, mais c'est d'abord la liberté. Il y a un fort attachement à la liberté dans notre société. Donc si nous sommes des hommes et des femmes qui sont pleinement, qui vivent pleinement cette liberté, on va forcément attirer les autres. Et si nous voulons aller vers la croissance, si nous voulons aller vers la multiplication, ça passera par cela. Ça passera par une église en bonne santé, une église épanouie avec des hommes et des femmes qui sont pleinement dans cette liberté. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous arrêter ce matin sur cette liberté du disciple. Et nous allons voir deux points. J'aurais pu en voir cinq ou six, mais j'ai dû couper. On prolongera peut-être cela, mais pour nous arrêter sur ces deux points, d'abord parler de l'ennemi de la liberté du disciple. Voilà. Comme je disais, que tous les chrétiens ne vivent pas vraiment dans cette liberté, et il y en a qui là sont victimes des actions de cet ennemi. Et puis nous parlerons du cadeau, le vrai cadeau qu'est cette liberté que Christ nous a donné, et d'apprécier pleinement. L'ampleur de ce cadeau, la beauté de cette liberté que Christ nous a donnée. Donc, ce sera les deux points que nous allons aborder ce matin. Nous allons d'abord nous arrêter sur l'ennemi de cette liberté. La liberté du disciple, dit comme cela, on pourrait presque dire que c'est un oxymore, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble, en fait. Disciple, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va s'attacher à un maître. C'est quelqu'un qui va suivre un maître, qui va dépendre d'un maître, donc qui va renoncer à sa liberté pour dépendre de quelqu'un, pour s'attacher à quelqu'un. Donc on se dit la liberté d'un disciple, on pourrait penser à la première lecture, que c'est ces deux mots qui ne vont pas ensemble. Pour comprendre cela, il faut revenir bien sûr sur le dessein, le plan de Dieu au départ, dans son œuvre de création, quand il a créé l'homme et la femme à son image. Et il les a appelés, bien évidemment, à être dépendants, totalement dépendants de lui, dépendants du Créateur, de vivre pour lui, de vivre pour sa gloire. Et nous savons que, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, et que dans le chapitre 3, il nous est raconté comment l'homme va vouloir chercher, trouver sa propre indépendance. Il va vouloir se détacher de Dieu comme maître pour devenir son propre maître. Il va y avoir cette révolte qu'on appelle la chute, et dans cette volonté d'indépendance pour être son propre maître. Et l'homme, voilà, pense, croit souvent qu'il est maître de sa vie, qu'il peut tout décider et tout faire de lui-même. Ça, c'est l'illusion dans laquelle nous pouvons vivre et nous avons vécu les uns et les autres. Et la Bible nous montre que si Dieu n'est pas notre maître, ce n'est pas nous qui serons le maître de notre vie. Il y a quelqu'un d'autre qui va devenir notre maître. Jésus dira, vous ne pouvez servir deux maîtres. Mais en même temps, cela signifie qu'on doit servir un maître. Il y a un maître que l'on doit servir. On ne peut pas faire autrement que de servir un maître. Et si ce n'est pas Dieu, ce sera un autre maître. Et ce maître-là, il a des noms que vous connaissez bien. Celui du péché, du mal, de Satan lui-même. Un maître donc tyrannique, qui n'est jamais satisfait, injuste. Et bien évidemment, quand on vit dans ce genre de tyrannie, d'esclavage, on a envie de se libérer, on a envie de sortir de cela. Et c'est la raison pour laquelle l'homme est allé vers des religions. Il a établi, institué des religions dans le but de se libérer. Et il y a quelque chose de récurrent dans les religions, c'est que s'il y a une théologie du salut, elle est toujours la même. C'est le salut par les œuvres. C'est d'obéir à un certain nombre de lois pour être accepté, pour se libérer. Et l'Évangile, bien sûr, va à l'inverse de cela, puisque dans l'Évangile, c'est Christ qui nous libère. Jésus dira, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça, c'est la théologie du salut, de la grâce, dans la grâce de Dieu. Ça, c'est un don gratuit. C'est cet évangile que Paul a annoncé partout où il est allé pour apporter l'évangile. Il a proclamé cet évangile de la grâce, et notamment dans cette partie de l'Asie mineure à l'époque, qui a été au départ, bien sûr, qui a permis de fonder ou d'implanter des églises, et auquel Paul va s'adresser dans cette lettre aux Galates. Quand il va écrire l'épître aux Galates, il va s'adresser à plusieurs églises qui se trouvaient dans cette région et qui avaient été implantées au travers de son ministère, et c'était des hommes et des femmes qui avaient découvert cette liberté en Christ. Et Paul a pris des choses par la suite et il a appris que ces chrétiens s'étaient détournés de l'évangile de la grâce. Et s'étaient tournés, ce qu'il appelle dans sa lettre aux Galates, vers un autre évangile. Non pas, dit-il, qu'il y en a un autre évangile, il n'existe pas d'autre évangile, mais ils ont détourné l'évangile de la grâce. Les premiers chrétiens, on le sait, étaient d'origine juive. Ils étaient à Jérusalem, s'étaient convertis, et c'était des hommes et des femmes qui étaient très attachés à la loi de Moïse. Et par la suite, lorsqu'ils se sont convertis, pour un certain nombre d'entre eux, ils voulaient bien de la grâce de Dieu, mais sans abandonner la loi, sans vraiment abandonner la loi. Ils avaient été dans une religion qui disait que pour être sauvé, il fallait obéir à toute la loi de Moïse. C'est pas ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Mais c'est ce qu'ils avaient fait de la loi de Moïse. Dieu n'avait pas du tout dit à ces Israélites que s'ils voulaient être sauvés, il fallait qu'ils obéissent à la loi. On le sait dans l'expérience de ce peuple, que ce peuple a été sauvé, libéré, avant de recevoir la loi. Vous connaissez l'épisode de la mer Rouge, certainement, lorsque ces Hébreux étaient esclaves en Égypte, qui ne pouvaient plus supporter les conditions de vie, de travail dans lesquelles que les Égyptiens leur imposaient, et qu'ils ont fini par crier à Dieu parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils ont crié à Dieu leur souffrance, et c'est ce qui nous est dit dans Exode. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites du fond de leur esclavage se mirent à gémir et à crier, et leur appel au secours monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc ils ont crié à Dieu leur désespoir, leur détresse, ils n'en pouvaient plus, ils ne supportaient plus. Et Dieu a entendu leur cri. Et quand Dieu a entendu leur cri, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit, ben voilà, il a appelé Moïse, il dit, Moïse, tiens, regarde les 10 commandements. Tu vas donner à ce peuple descendant d'Abraham les 10 commandements de Moïse, et s'ils obéissent aux 10 commandements de Moïse, eh bien je vais les libérer d'Égypte. Vous savez que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Dieu a bien appelé Moïse. Mais Dieu a dit à Moïse, voilà comment ça va se passer. Vous allez sacrifier un agneau, vous allez mettre le sang de cet agneau sur la porte de votre maison, et lorsque l'ange va passer, il va passer par-dessus les maisons où il y aura le sang de l'agneau. Vous serez sauvés, vous serez épargnés. Et c'est ainsi que ce peuple a été libéré, cette fameuse nuit de Pâques. Ils sont partis d'Égypte, ils ont quitté l'Égypte, ils ont été sauvés, ils ont été libérés, avant même que Dieu leur ait donné la loi. Et si Dieu les a libérés, c'est uniquement par grâce, par amour pour eux. Il les a aimés. Et pourquoi il les a aimés ? Parce qu'il les a aimés. Il les a d'abord aimés, il les a libérés, et une fois qu'ils ont été libérés, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il leur a donné la loi. Il a dit à Moïse, voilà, maintenant, voilà la loi. Je vais vous donner la loi, maintenant que vous avez été libérés, vous pouvez accomplir la loi. Vous pouvez obéir à la loi. Et vous voyez le détournement qui a été fait dans le judaïsme avec la loi de Dieu pour faire de la loi le moyen par lequel l'homme peut être sauvé. Ça s'est tellement développé au temps de Jésus, c'était dans le pharisianisme, et vous connaissez cela, dans les évangiles, ces pharisiens qui avaient mis la loi au-dessus de tout, le seul moyen par lequel ils pouvaient être sauvés. Alors que Jésus est venu avec un autre message, qui était le message du salut par la grâce. Exactement comme Dieu l'avait fait pour les Hébreux, en fait. Tous ceux qui crient à lui peuvent venir à lui, et il les libère au travers de son sang aussi. Il y a toujours une histoire de sang. Le sang parle du sacrifice. Le sacrifice, c'est pour aussi payer la condamnation. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Jésus étant le véritable agneau, en fait. Ces chrétiens, parmi ces Galates d'origine juive et ailleurs, bien sûr, à Jérusalem notamment, étaient tellement imprégnés de la loi de Moïse comme moyen pour aller vers Dieu ou être sauvés, qu'ils avaient construit un nouvel évangile, en fait. Cet évangile, il se résume de la manière suivante. Pour eux, c'était Christ. Bien sûr que c'était Christ. Mais plus la loi. Et particulièrement la circoncision. Et on est question dans l'Épître aux Galates. C'était Christ. Oui, Christ est indispensable. Christ, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut la loi, il faut revenir à la loi de Moïse. Ces chrétiens-là, on les appelait les judaïsants. Et ce message qu'ils sont partis annoncer un peu partout, il y avait des églises qui étaient implantées, a eu un certain succès, en fait. Et notamment parmi les Galates. Et Paul a entendu parler de cela, il n'était plus présent sur place. Il a entendu parler de cela et il était très, très en colère. Et quand vous lisez l'Épître aux Galates, vous voyez un apôtre qui est très en colère. Il est fâché. Croyez-moi, s'il avait pu être présent physiquement, il l'aurait senti. Hein. Mais déjà, en lisant les textes, vous sentez qu'il n'est pas content du tout. Il va utiliser des termes très forts. Il va dénoncer le retour dans ce légalisme religieux. Il va prendre deux chapitres, le chapitre 3 et le chapitre 4, pour expliquer ce qu'est la justification par la foi, ce qu'est la grâce de Dieu. Il va prendre soin de rappeler ce qu'est le salut en Christ, par grâce. Et montrer qu'à cause de ce retour au légalisme, ils avaient perdu leur liberté. Ils étaient revenus sous un autre esclavage, un autre joug. Il y a, ce n'est pas uniquement caractéristique, bien sûr, pour les Galates, c'est malheureusement quelque chose qui est très ancré dans la nature humaine. Ce retour au légalisme. Il y a chez l'homme ce que j'appellerais le syndrome de surérogation. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je vais dire, c'est quoi comme maladie? J'espère que je ne l'ai pas. Je vais aller vite à l'hôpital demain. Alors, si vous cherchez le service de surérogation à l'hôpital, vous n'allez pas le trouver. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est moi qui appelle ça comme ça, le syndrome de surérogation. Ça veut dire quoi, surérogation? Ceux qui ont fait du latin, ils savent. Ça veut dire l'action de donner en plus. L'action de donner en plus. Dans le domaine religieux, ça signifie que l'on fait quelque chose de bien, mais ce que l'on fait de bien va au-delà de ce qui est obligatoire. Il y a des choses qui sont obligatoires plutôt dans la religion. Il y a les lois, la loi de Moïse, il fallait obéir à la loi de Moïse. Mais la surérogation, c'est de faire quelque chose qui n'est pas demandé dans la loi, qui va au-delà. Et croyez-moi, vous aviez ça dans le judaïsme, vous avez ça dans le christianisme, dans la théologie catholique romaine, vous avez la surérogation. Et vous avez ça aussi dans l'islam. Vous avez dans l'islam, par exemple, 5 prières obligatoires par jour. D'accord ? Vous avez le jeûne, le jour du Ramadan, ou la période du Ramadan que vous devez faire. Maintenant, si vous faites, en plus des 5 prières par jour, une autre prière, qui n'est pas obligatoire, ça devient une prière surérogatoire. En plus, c'est pareil pour le jeûne. Après un mois de jeûne, je doute qu'ils aient envie de recommencer très vite. Parce que c'est en ce moment le Ramadan. Et donc c'est faire quelque chose en plus au-delà de ce qui est obligatoire. Pour vous aider à comprendre cela, je vais prendre un exemple dans le code de la route. Quand on parle de loi, on parle souvent du code de la route. Je crois que si l'Évangile était écrit aujourd'hui, il y aurait des exemples de ce genre. Je suis en voiture, le soir, je suis à Angers, en ville, et puis à un carrefour, il y a des feux. Le feu est au rouge et je passe au rouge. Ce qui m'arrive jamais, mais ça c'est un exemple que je prends. Je passe au rouge, mais à ce feu-là, il y a une caméra. Et c'est la nuit, et je sais que j'ai été pris en photo. La voiture a été prise en photo. Je sais que là, je risque d'avoir une amende, et que cette amende, ça va me coûter je ne sais pas combien. Nombre de points, c'est quoi? 6 points. Oh là là, 6 points. Oh, la moitié. Donc, je suis là, je suis un peu saisi, je me dis, mince, c'est pas vrai. Je vais passer au rouge, je vais avoir une amende. Des points en moins, et je me dis, ah ouais, mais il y a un autre carrefour là, avec une caméra aussi, et le feu est au vert, alors je vais m'arrêter au feu. Je vais faire quelque chose qui n'est pas obligatoire. Je ne sais pas ce que les voitures derrière moi vont dire, je ne sais même pas ce que l'officier de police qui va voir, parce que je vais être flashé, j'espère être flashé, en disant... Parce que je ne serai pas flashé, bien évidemment, mais en espérant être flashé, et je me dis, si je suis flashé, que l'officier de police qui regarde les deux amendes dit, ah, le monsieur là, il est passé au rouge, mais après, il s'est quand même bien rattrapé, puisque au vert, il s'est arrêté. On voudrait que ça marche comme ça. Hein. Ne faites pas ça, ça ne marche pas comme ça. D'abord, il va peut-être vous mettre une amende de plus pour vous arrêter au vert. Normalement, vous devez traverser. Mais vous voyez ce que c'est la surérogation? C'est de faire quelque chose en plus en espérant que ça va réparer ce qu'on a pu faire avant. Ça, par exemple, dans la doctrine catholique, c'est ce qui a été le fondement de ce qu'on appelle les indulgences. Les indulgences, c'est pour la rémission des fautes. Alors, les petites fautes quand même, hein, les péchés véniels. Mortels, c'est trop tard, on va en enfer. Mais véniels, on va encore au purgatoire, et là, on peut quand même sortir du purgatoire. Mais là, il faut faire un certain nombre d'œuvres, et ces œuvres, elles sont variables. Ça peut être la célébration du messe, hein, pour une personne, une autre personne, ça peut être une prière, une abstinence, une aumône, aux pauvres, tout autre acte méritoire. C'est faire quelque chose, et ce que vous faites là, ça va dans ce qu'on appelle un trésor, le trésor des satisfactions, le trésor des mérites, ça a plusieurs noms, le trésor de l'Église. Et l'Église qui est là pour distribuer le salut, la rédemption, à ce moment-là, elle peut distribuer des indulgences, soit pour des chrétiens qui sont sur terre qui en ont besoin, ou pour des chrétiens qui sont au purgatoire et qui en ont besoin aussi. C'est ce qu'on appelle les indulgences. Vous voyez, ça, c'est le fondement même, la surérogation, c'est le fondement même de ces indulgences. Et c'est contre ces indulgences, bien sûr, que Luther a fortement combattu, parce que les quatre fameuses 95 thèses qui ont été affichées, là, le 31 octobre 1517, et on fête, vous savez, le 500e anniversaire de la Réforme avec Luther, c'est voilà, au moment où il a affiché ses 95 thèses, la plupart d'entre elles sont au sujet des indulgences. Il dénonçait cela, il refusait cela. Il y a, on peut dire, quelque chose dans la nature humaine qui l'attire vers ce genre d'attitude. Il y a comme un réflexe. On se dit, on a fait quelque chose de mal, on va essayer de réparer en faisant quelque chose de bien. Et si on accumule suffisamment de points, alors on va pouvoir réparer le mal qu'on a fait. Ça, c'est ce qu'il y avait derrière, cet autre évangile, comme Paul l'appelle, vers lequel les Galates s'étaient tournés. Et Paul dénonce cela avec force, bien sûr. Parce que vivre par la loi, c'est aller vers la mort certaine, en fait. Parce qu'on n'en fera jamais assez, en réalité. On n'aura jamais assez de mérite. On ne fera jamais assez de bonnes œuvres. Ça ne sera jamais suffisant. Donc c'est la mort certaine. Donc Paul va rappeler dans cet épître l'importance de l'évangile, de la grâce, de la promesse, comme il l'appelle dans cette lettre, qui va donner une vie à ce moment-là, une vie nouvelle. Paul connaissait les conséquences, les terribles conséquences du légalisme. Et ça se trouve au chapitre 5, verset 15, lorsqu'il dit, donc on a lu le verset premier, un peu plus loin dans ce chapitre, il leur dit, vous voyez, pour ces Galates qui revenaient vers le légalisme, vers la loi pour être sauvés par Dieu, il leur dit, si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Ou une autre version dit, mais si vous agissez comme des bêtes sauvages en vous mordant et vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Ce que Paul veut dire, c'est que si on fait les choses de cette manière-là, au travers de la loi, par le légalisme, ça ne sera jamais l'unité, la multiplication. Ça sera toujours la division, la séparation. Il y aura toujours des conflits. Si nous voulons aller vers l'unité, un peu plus d'unité, et vers la multiplication, alors c'est l'évangile de la grâce. Si nous prenons là la loi pour, comme moyen d'être sauvés, si nous retournons sous une forme ou sous une autre dans le légalisme, alors oui, voilà ce qui va se passer, et c'est ce que Paul leur dit. Vous allez vous dévorer les uns les autres. Je n'ai pas le temps de démontrer cela, mais je le ferai peut-être une autre fois, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. Mais c'est malheureusement ce qui se passait déjà dans ces églises où il y avait le retour du légalisme. Le meilleur moyen de lutter contre le légalisme pour garder cette liberté, c'est de garder et d'avoir une bonne compréhension de l'évangile, de la grâce. L'antidote, c'est le chapitre 5, verset 1er, lorsque Paul dit « Vous avez été libérés pour être libre. » On dit, oui, c'est un peu évident. Mais le problème, c'est que pour beaucoup de chrétiens, c'est pas si évident que ça, en fait. C'est pour la liberté que Christ vous a libéré, dit-il. Ce que Paul veut faire, avant de leur parler, parce que dans la suite du chapitre 5, il va leur parler de comment garder cette liberté, parce que cette liberté, on peut la perdre, c'était le cas de ces Galates. Comment nous pouvons développer cette liberté, comment elle peut grandir en nous. Et là, il va parler du fruit de l'esprit, par exemple, et comment ne pas abuser de la liberté aussi, parce que là aussi, on peut mal l'utiliser, cette liberté, on peut en abuser. Donc, Paul va dire un certain nombre de choses, et on ne va pas les regarder ce matin, mais on va juste s'arrêter sur ce premier verset dans ce chapitre 5, lorsque Paul leur dit, mais rappelez-vous que c'est pour la liberté que Christ vous a libérés. C'est une manière de leur dire, mais regardez le cadeau que Dieu vous a fait. Regardez l'immensité de ce don que Dieu vous a fait. Il veut que ces chrétiens de Galates puissent pleinement profiter de cette liberté, qu'ils puissent célébrer cette liberté. On chantait il y a quelques années un chant, on chante beaucoup moins maintenant, « Je suis libre ». Je suis libre, hein. Vous vous souvenez ? Je crois qu'on l'avait fait pour le mariage de Natacha, ma fille. On avait chanté, donc ça remonte à quelques années. Je suis libre. C'est un merveilleux chant. Ce que Paul voulait probablement, c'était qu'il puisse vivre le choc d'une personne qui a été privée de liberté pendant longtemps et qui retrouve la liberté. Je pense à un détenu, par exemple, qui a été pendant des années en prison, privé de liberté. Le jour où il sort de prison, ça doit être quelque chose. Quand pendant des années, vous avez été enfermé dans une cellule avec les conditions de vie que cela peut représenter, impossibilité de sortir, limité dans vos gestes et dans vos actes, et que tout d'un coup, vous pouvez... Je crois qu'il y a certainement un choc. Pareil pour des esclaves, quand ils ont été esclaves pendant des années et qu'un jour, ils ont été libérés de l'esclavage, devait être quelque chose, peut-être quelque chose qui est plus proche de nous, peut-être qu'on a vécu les uns et les autres, je ne sais pas, au travers d'un accident, si vous avez été privé de la marche pendant l'utilisation de vos jambes, par exemple pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, à cause d'un accident, et puis que vous retrouvez la possibilité de marcher à nouveau. Je pense que des gestes comme je fais en ce moment, là on ne réfléchit pas, moi je ne réfléchis pas, je me dis, oh, c'est merveilleux, je marche. Mais si j'avais été privé pendant un mois de marche, je crois que je me serais levé ce matin en me disant, mais je marche. Enfin, vous voyez, on fait ce geste et on y pense. On en est conscient, on se dit, mais c'est extraordinaire. C'est parce qu'on en a été privé pendant un temps que l'on mesure encore mieux le privilège, le bonheur de pouvoir faire certaines choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là quand Paul leur dit, ce qui peut paraître une évidence, leur dit, mais c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Mais est-ce que vous allez vraiment commencer à apprécier et à mesurer la grandeur, la beauté de ce que Dieu vous a donné? On peut mesurer, comme je disais, parfois un peu mieux ce qu'on a quand on en a été privé pendant quelque temps. Mais aussi quand on voit d'autres qui en sont privés. Effectivement, quand on voit quelqu'un, par exemple, qui n'a pas la vue, qui est aveugle, quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, et si on est avec lui, on y pense. On se dit, mais moi j'ai ce privilège. Vous voyez, quand on est à côté de quelqu'un qui, lui, en est privé. Et par rapport à cette question, et c'est ce qui m'a amené à parler comme je le fais ce matin, c'est cette expérience que j'ai faite. Alors là, je ne vais pas donner les noms, bien évidemment, vous le savez, mais nous avons été dans un pays musulman pendant quelques jours. Et c'était la première semaine du Ramadan. Alors, je savais cela, je savais que pour les musulmans, le Ramadan, c'est très important, ça dure un mois, et que du lever du soleil au coucher du soleil, ils sont obligés de jeûner, ils ne peuvent pas manger et ils ne peuvent pas boire non plus. Donc dans le pays où on était, ça commençait à 5h30 le matin. Donc si vous voulez boire, c'était avant, manger, c'était avant. Et ça se terminait à 19h30. Pendant tout ce temps-là, dans ce pays chaud, et souvent les pays musulmans, arabes notamment, dans les pays chauds, pendant tout ce temps-là, ceux qui respectent la loi de l'islam, ils se privent de nourriture et de boisson. Et on a été dans ce cas-là, quand il fait 30, 35, à midi, à 15 heures, et vous êtes à côté de musulmans, vous buvez, nous on buvait, mais eux ne buvaient pas, pour respecter la loi. Et je l'ai partagé avec le groupe, et je partage avec vous, et là je me suis dit, mais waouh, je suis libre. Je peux jeûner si je veux. Oui. Je peux même faire un jeûne total si je veux. Mais ce n'est pas une obligation. Et de toute façon, ça ne sera pas pour être sauvé. Parce que je suis déjà sauvé. Ça sera pour quelque chose de particulier, ça peut être un combat particulier, quelque chose que je peux faire. Mais ça sera fait dans cet esprit-là. Et, alors je m'étais trouvé dans ces circonstances déjà dans le passé, mais pas dans un ramadan au mois de juin. Quand c'est d'autres mois de l'année où il fait moins froid, moins chaud, je veux dire, c'est relativement plus facile, même si ça reste quand même un véritable défi. Vous savez, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est privé de quelque chose que vous avez, vous mesurez un peu mieux ce que vous avez. Et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Je me suis dit, mais quel privilège! C'est toute la réaction que nous avons eue. Mais quel privilège! Ces gens sont sérieux dans leur religion pour la plupart. Ils respectent cela et ils prennent même des risques pour leur vie. Parce qu'à ce niveau-là, oui, vous pouvez être complètement déshydraté. Et ça peut être catastrophique. Et je crains que malheureusement, il y ait des décès aussi dans ces périodes à cause de cela. De grandes chaleurs. Et j'ai eu le sentiment qu'avec certains, et notamment, nous avons été avec un guide pendant une visite, et nous étions le dernier groupe qui faisait cette visite ce jour-là. Il était à peu près 5 heures de l'après-midi. Ça veut dire que lui, depuis 8-9 heures, il avait fait, je ne sais pas combien de groupes, il avait parlé toute la journée. Il faisait à peu près 30 degrés. Et il n'avait pas bu toute la journée. Et il nous en a fait la remarque quand même. Il savait qu'on était Européens, donc pour lui, les Européens, c'est forcément des chrétiens. Mais il nous a quand même suggéré, il nous a dit, il s'est senti libre de nous le dire. Alors c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il nous a dit, l'islam à ce titre-là, c'est la religion la plus stupide du monde. C'est lui qui le dit, moi je n'oserais pas dire ça, bien évidemment. Mais il voyait la dureté, la difficulté de devoir se soumettre à ce genre de loi si difficile, si contraignante. Alors qu'il voyait qu'il y avait d'autres religions, ce n'est pas le cas. C'était son propos à lui. Attendez, ne pensez pas, moi je ne dis pas ça. Je n'ai pas de jugement à porter sur cette religion, sur ces gens en particulier. Mais c'est lui, en tant que musulman, qui disait ça. Le grand objectif de l'Évangile, c'est de nous donner cette liberté. On pourrait dire que Jésus est le plus grand abolitionniste du monde. Il y en a eu d'autres qui ont essayé de travailler pour l'abolition de l'esclavage, notamment, et qui ont fait un travail important, même des chrétiens. Mais Jésus est certainement le plus grand abolitionniste. Il a brisé nos chaînes, il a ouvert les portes, il nous a donné un air frais de liberté. Même si on ouvre les portes aujourd'hui, on ne sent pas qu'il y a un air frais. Pour mieux profiter de cette liberté, il faut savoir de quoi nous avons été libérés. Et je vais le faire très très vite, en 2 minutes. Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Tous ceux en effet qui relèvent des œuvres de la loi, tout ce qui relève des œuvres de la loi sont sous la malédiction, ça c'est dans Galates. Car il est écrit, maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le faire. Donc il nous a libérés de cette malédiction. Il nous a libérés ensuite de la mort, la peur de la mort. Il nous a délivrés, il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Délivrés de la crainte de la mort. Ensuite, il nous a libérés de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Formidable libération. Plus de condamnation. Ensuite, la puissance du mal. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de ce qui est juste ou de la justice. Vous êtes libérés du mal, de la puissance du mal. Ensuite, il nous a libérés des ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Formidable libération. Ensuite, il nous appelle à goûter pleinement à cette liberté. Je terminerai avec cette illustration tirée d'un film que peut-être vous avez vu, Amistad. Il y a combien qui ont vu ce film-là, Amistad, vous l'avez vu ? Ouais. C'est un film de Steven Spielberg de 1997, ça fait 20 ans maintenant. Et il raconte une histoire qui est basée sur des faits authentiques, inspirée de ce qui s'est passé au 19e siècle, lorsqu'on transportait des Africains pour les emmener comme esclaves en Amérique notamment. Et là, c'est l'histoire. Amistad, c'est le nom d'un de ces bateaux espagnols, une goélette qui transportait des centaines d'Africains de Sierra Leone et qui les emmenait là comme esclaves en Amérique. Et pendant le cours du voyage, il y a eu une tempête au large de Cuba et les esclaves ont pu se libérer de leurs chaînes et il y a eu une véritable mutinerie sur le bateau. Et donc ils ont gardé vivants quelques marins, quelques officiers, et en leur demandant de les ramener en Afrique. Parce qu'eux n'avaient pas de connaissances de navigation, ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, donc ils dépendaient de ces marins. Alors le jour, ça pouvait aller, parce qu'avec le soleil, c'était facile de se repérer, mais la nuit, c'était plus compliqué. Et justement, les marins espagnols qui avaient ces connaissances de navigation, ils ont profité de la nuit pour aller dans l'autre direction qui leur était imposée. Et là, il y a eu un vent très fort qui les a amenés, en Amérique. Et là, ils ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés. Et il va y avoir un procès qui va durer longtemps parce qu'il y avait plusieurs camps qui revendiquaient ces esclaves pour eux. Il y avait l'Espagne, la reine Isabelle II, qui disait que ils appartenaient à l'Espagne. Il y avait l'armateur du bateau qui disait qu'ils étaient à eux, il y avait les États-Unis qui disaient qu'ils étaient à eux. Enfin voilà, il va y avoir un procès qui va durer très longtemps et ils sont au milieu là de cette tempête juridique et ça va prendre une ampleur même nationale. Et pendant le procès, à un moment donné, l'un des esclaves, des prisonniers, qui s'appelait Kinsey, je crois, et lui, ils connaissent pas la langue, ils connaissent pas l'anglais, bien sûr, et il a capté quand même quelques mots, et pendant le procès, il va sortir ces mots. Alors, il maîtrisait pas la langue, bien évidemment, donc la syntaxe n'est pas du tout bonne, mais on comprend ce qu'il veut dire. Il dira donc en anglais, il dira en français, donc traduit en français, « Il nous faut libre, il nous faut libre. » Et il répétera ça plusieurs fois. Il nous faut libre. Ce procès va aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis et ils vont finalement être libérés. Ce cri-là, c'était aussi le cri des Hébreux en Égypte, dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Quand ils criaient à Dieu parce qu'ils étaient là, dans l'humiliation totale, dans l'esclavage, il nous faut libre. Et Dieu a entendu ce cri. Et parce que Dieu a entendu ce cri, il a envoyé Moïse et ils ont été libérés d'Égypte. C'est le cri que Dieu a entendu aussi, que nous avons eu les uns et les autres à un moment donné. Et la Cour suprême du ciel, on peut dire, elle a pris notre défense. Elle a entendu notre cri. Et le Sauveur a dit, c'est pour la liberté que je vous ai libéré. Rappelez-vous de cela. C'est pour la liberté que je vous ai libéré. C'est comme cela et c'est par cela que nous allons pouvoir embrasser cette liberté, en fait. Apprécier, célébrer cette liberté. Parce que nous étions des esclaves. Nous étions enchaînés, incapables de nous défaire de ces chaînes. Et si nous vivons pleinement cette liberté, je peux vous dire qu'on va faire envie. Parce que le monde, sans le savoir, il crie aussi, il nous faut libres. Beaucoup disent qu'ils pensent qu'ils sont libres, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont prisonniers, ils sont esclaves. Et quand on entend certains cris autour de nous, on entend ce cri-là. Ce cri de Kinsey dans Amistad qui disait, il nous faut libres. Et l'Évangile est là pour répondre à ce cri. C'est Dieu qui répond en disant, c'est pour la liberté que je vous ai libéré. Nous sommes libres. Vivons pleinement cette liberté, sans en abuser, on parlera de ça peut-être une autre fois, mais vivons pleinement cette liberté. Soyons des disciples libres, pleinement dans cette liberté. Parce que là, on ira vers l'unité, vers la croissance, vers la multiplication, on fera envie. Bénissons Dieu pour sa liberté. Je vous invite à vous lever, si vous voulez. On va ensemble, pendant quelques instants, célébrer son nom pour nous avoir libérés. Seigneur, merci d'avoir entendu notre cri. Comme tu as entendu le cri des Hébreux, Seigneur. Tu as entendu notre cri, Seigneur. Pour la liberté, Seigneur. Nous souffrons, nous avons souffert de cet esclavage lié au mal, Seigneur, avec ses puissances, ces forces du mal qui sont là et qui dominent notre monde et qui manipulent et qui torturent. Seigneur, merci de nous avoir donné cette liberté. Seigneur, nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'obéir à des lois pour être sauvés, Seigneur, pour être libérés, Seigneur. Toi, tu as obéi à la loi pour nous et tu as subi la condamnation à notre place afin que nous soyons libérés, Seigneur. Et tu nous as donné cette liberté, Seigneur. Et nous vivons cette liberté. Et nous voulons, Seigneur, la célébrer et te bénir pour cela, Seigneur. Et nous voulons la garder, nous voulons la chérir, Seigneur. Nous voulons surtout pas, Seigneur, que le diable nous enlève cette liberté, Seigneur. Comme ça a été le cas pour les Galates. Seigneur, donne-nous de rejeter toute forme de légalisme dans notre vie ou dans l'Église, Seigneur. Nous voulons être pleinement en Christ et vivre pleinement en Christ. Te bénissons pour cela, Seigneur. Alors sois loué pour la liberté que tu nous as donnée en Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous invite à vous asseoir.